Donc on va dire quelques. Donc on est parachat, bon, d'accord. Les quatre premières parachutes de Shemot, elles vont développer tout le inyan de l'exil et de la libération de l'exil. Donc comment le Ram Israël va rentrer dans l'exil et comment il va en sortir. Et on verra que ce phénomène d'exil, ça veut dire quoi exil, d'oppression de nations sur le peuple juif et de libération, c'est quelque chose qui va se répéter tout au long de l'histoire juive. En réalité, le Tanakh, la Bible, c'est un livre extraordinaire, mais je veux dire, vraiment, entre guillemets, entre quadruple guillemets, c'est un livre, on dirait en hébreu, Mesharamem. C'est quoi Mesharamem ? Ennuyant. Pourquoi ennuyant ? Chas v'shalom, comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est toujours la même histoire qu'on raconte. Le Tanakh aurait dû s'arrêter par achat à Shoftim. À Yoshua. C'est quoi Yoshua ? Le premier livre du Tanakh, c'est Josué. C'est quoi Josué ? C'est la conquête d'Eretz Israël. On est rentré, on a fait la guerre, on est rentré en Eretz Israël et on a reçu Eretz Israël. Le Tanakh, il aurait dû s'arrêter là. Ah, pourquoi il continue ? Il dit parce que c'est les fautes du Ram Israël qui ont engendré la suite de l'histoire. Et donc comme ces fautes-là, elles vont avoir une application et une implication sur le Ram Israël, alors le Tanakh a été écrit. Donc on verra maintenant dans le Tanakh, c'est toujours la même histoire. C'est quoi là, toujours la même histoire ? C'est que le peuple juif se porte bien, tout va bien, Baruch HaShem, on est des bons juifs, tout va bien. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va commencer à voter. Donc qu'est-ce qui va se passer après qu'on va voter ? Akadosh Baruch Hu, il va se mettre en colère contre nous et il va nous envoyer des méchants. Les méchants, ils vont venir nous faire du mal, nous taper. Alors il y aura toutes sortes de scénarios, il y aura toutes sortes de choses. Jusqu'à que le Ram Israël va tellement être dans l'oppression, il va prier HaShem. HaShem va envoyer un libérateur. Alors un libérateur, il aura plusieurs formes dans le Tanakh. Et il va faire la guerre avec les méchants, il va expulser les méchants, il va détruire les méchants, etc., etc. Il y aura plein de miracles. Et le Ram Israël va faire tchouva, Baruch HaShem, et on va redevenir des bons juifs. Pendant combien de temps ? Pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 100 ans. Des fois, il y a des passages dans le Tanakh qui sont très très longs, d'un à l'autre, et on ne voit pas ce qui se passe. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le Ram Israël va encore une fois refauter, etc. Et en fait, cette histoire-là, c'est l'histoire qu'on a vécue dans Shemot. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé dans Shemot ? On est monté, on arrive en Égypte. D'accord ? On était accompagné de qui ? On est arrivé avec ? Non. Arrêtez-vous, ouais. Par cette Shemot, avec qui on est arrivé ?
Yosef.
Mais non, Yosef est déjà là. Avec Yaakov ! C'est qui Yaakov ? Yaakov, c'est le père de famille. C'est ce qu'on appelle chez nous le Zaken. C'est quoi le Zaken ? L'ancien. D'accord ? Tant que Yaakov était vivant, tout allait bien. Et d'ailleurs, entre la fin de Parashat Vayechi et le début de Parashat Shemot, il y a un certain temps qui se passe, et Bichlal, on n'en parle même pas. D'accord ? On ne sait même pas ce qui s'est passé. La Torah nous raconte les noms des tribus, etc. Après, on nous raconte que Yaakov Melech Hadash avale une grande période ici, qu'on ne nous raconte pas ce qui s'est passé en Égypte. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi qu'on est venu avec le Zaken, l'ancien, Yaakov Avinu, il est venu, l'ancien, il est là. On écoutait les conseils de l'ancien, on écoutait les conseils de Yaakov. D'accord ? Après Yaakov, il y a une nouvelle génération, la génération de ses enfants, les enfants aussi, d'accord, c'était des anciens, ils avaient reçu, ils avaient grandi dans une maison de Torah, la maison de Yaakov, ils avaient reçu un chemin dans la vie, etc., etc. Et tout allait bien, d'accord, jusqu'à le Pérekret, tout va bien. Pas Pérekret, un petit peu avant le Pérekret, le verset, tout va bien. Et là va commencer les problèmes. C'est quoi ? Makara, va yamot Yosef v'kol echav. Il va mourir Yosef et tous ses frères et toute la génération. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Il dit que toute la génération des anciens va mourir. Et qui c'est qui va prendre la relève ? C'est qui ? C'est les jeunes. D'accord ? Et les jeunes, ils vont commencer à avoir toutes sortes d'idées. D'accord ? Toutes sortes d'idées. Ils ne vont pas avoir la force de leur père de dirigeant. Et ainsi de suite, comme ça, ça va commencer à l'idarder. Comment on dit en français l'idarder ? Ça va commencer à redescendre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'anciens, il n'y a plus les anciens. Et comment on voit que ça va commencer à... Alors, s'il y a un truc intéressant ici, il y a marqué « Où venez Israël par où veishretsu virgu viatsmu meod meod vati malé aretzotam » Et les bénis Israël, ils vont se multiplier. Alors, pour dire se multiplier, c'est quelque chose qu'on voit dans la Haggadah de Pessah. Il y a plusieurs thèmes qui sont employés. C'est quoi ? C'est par où ? Par où c'est multiplié ? Vaishretsu, on va laisser pour la fin Vaishretsu. Vayirbu, c'est quoi Vayirbu ? Multiplier aussi. Vaetsmu, c'est un langage aussi de grandir. Bemeod, meod. D'accord ? Il y a six termes pour nous dire qui sont multipliés. Pourquoi six termes ? Chazal nous disent Parce que les femmes, elles accouchaient des enfants combien ? 6 par 6. D'accord ? Donc on apprend de là, de ces 6 termes. Maintenant, il y a un terme qui est intéressant, c'est quoi ? C'est le Vaishretsu. C'est quoi Vaishretsu ? Vaishretsu, c'est un mot qui n'est pas beau en réalité. Vaishretsu, ça veut dire qu'ils se sont multipliés comme les. Ils sont pullulés. Pullulés, c'est un mot qu'on emploie dans le sheretz, dans la vermine, dans les lézards, les cafards, les trucs comme ça. Les trucs qui c'est Vaishretsu. Comment est-ce que la Torah peut dire sur le Ram Israël, Vaishretsu ? Comme ça, la Torah parle des bnei Israël qui sont pullulés. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en réalité, Vaishretsu, nous disent les commentateurs, c'est à la vue des Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont commencé à voir les Juifs. Et ils ont dit, ah, regarde ces Juifs-là, ils commencent à pulluler, ils commencent à... Ça veut dire quoi ? Que le Juif, il est sorti de ses barrières. Il est sorti de son... Le mot, on l'aime pas. La notion, on l'aime pas. Mais ce n'est pas une notion qui est forcément négative. Le Juif est sorti de son ghetto. Le mot ghetto, c'est un mot négatif, ce qu'on a mis sur ça. Mais on va dire... On va prendre un autre mot que ghetto. Comment on va appeler ça ? On va sortir de son quartier, exactement. Il habitait son quartier juif, il habitait à Goshen, tout allait bien. Les Juifs étaient entre eux, ils étaient respectés des Égyptiens. Et on verra même d'ailleurs plus tard que tellement les Juifs étaient respectés des Égyptiens que Pharaon va devoir, dans les versets suivants, utiliser beaucoup de sagesse, beaucoup de rochma pour pouvoir asservir leur âme Israël. Parce que toujours on pose la question, on dit pourquoi... Il y a marqué que « Viens, agissons avec intelligence. » Pharaon, s'il avait un problème avec les Juifs, il n'avait qu'à sortir et massacrer tout le monde. D'accord ? Il y en a qui ne sont pas gênés. Hein. Là-bas, Saddam Hussein, quand il avait un problème avec ses officiers, il a envoyé les avions, ils ont bombardé, il y a eu 20 000 morts, voilà, il n'y a pas de problème. Pharaon, il aurait pu faire la même chose. Non, nous dit comme ça, il n'aurait pas pu faire la même chose. Pourquoi il n'a pas pu faire la même chose ? Parce que le Ham Israël, sauf, il était aussi très implanté en Égypte. Les Égyptiens, ils avaient une certaine appréciation, ils aimaient hein, plus ou moins le Juif. Donc il avait du mal avec la population égyptienne, il avait du mal. Donc il ne pouvait pas se permettre de faire un génocide. Il a dû user de sagesse pour asservir leur âme Israël. Et il va, et c'est ce qu'il va faire. En tout cas, c'est ce qu'on a dit, Vaishretsu, c'est aux yeux des Égyptiens. Et qu'est-ce qui va se passer ? Là, les bnei Israël, ils vont commencer à sortir de leur quartier, ils vont commencer à s'éparpiller dans l'Égypte. Et c'est... La louange du juif, mais c'est aussi le défaut du juif, c'est que le juif, il est patriote. Le juif, partout où vous allez, vous verrez que c'est un homme qui aime, il a lié à la nation dans laquelle il vit. D'accord ? Le juif est très très patriote. Il est très patriote. Le français, le juif français, il aime la France, d'accord ? Parce que il aime la France, le juif américain, il aime l'Amérique, etc. Le juif est patriote. Donc, lorsque le juif est arrivé, donc il a commencé à se disperser en Égypte, qu'est-ce qu'il a voulu ? Il avait été un bon patriote. Et comment on est un bon patriote ? D'accord ? Comment on fait ? Comment on fait pour être un bon patriote ? Eh bien, on essaye de... Voilà, exactement, s'assimiler. On essaye de ressembler aux autres. Enfin, on ne veut pas s'assimiler à l'origine. Mais on veut rester juif. Mais on veut ressembler aux autres. Et automatiquement, lorsque on veut ressembler aux autres, on va ressembler aux autres dans la façon qu'ils s'habillent. Mais ça, bah, au Hachem, en Égypte, ils ont réussi à tenir. Ils ont même gardé leur nom. Mais malgré tout, dans les mœurs, eh ben, ils ont commencé à ressembler aux Égyptiens. À tel point que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, les anges se sont plaints chez Hachem. Ils disent, mais qu'est-ce que tu vas sortir ces gens-là ? Quelle différence entre les Égyptiens, eux ? Eux aussi, ils sont Avodah Zara. Ceux-là, c'est des idoles. C'est des idolâtres. Quelle différence entre les Juifs et les Égyptiens ? Il n'y a même plus de différence. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même plus faire. À part l'habit, il n'y avait plus de différence entre le Juif et l'Égyptien. Le Juif avait complètement... Enfin, l'Égypte avait complètement déteint sur le Juif. Et donc, ça, c'est déjà le premier point qu'on peut voir, qu'on a dit au début, Masé Avot Siman Labanim, que le Juif, c'est bien, c'est une bonne chose d'être patriote. Il faut apprécier, il faut avoir de la karatatov, de la reconnaissance dans la terre dans laquelle on habite. D'où on voit qu'on doit avoir la reconnaissance, on peut dire au contraire, il ne faut pas avoir la reconnaissance. On voit que ici, les Égyptiens nous ont fait du mal, on aurait dû être contre les Égyptiens, dis non. Tu aurais dû avoir de la karatatov, de la reconnaissance, mais tu dois avoir une limite. D'où est-ce qu'on apprend qu'on doit avoir la reconnaissance ? On va voir plus tard que Hachem va maudire certains peuples et va nous interdire de nous marier, enfin de marier, enfin de, pas tout le monde n'a pas le droit de se marier. Un Israël n'aura pas le droit de se marier avec certains peuples. D'accord ? Qui sont-ils ? Certains peuples qui se convertissent. Il y a les Amon, Moab, d'accord ? Il y a Edom et il y a qui ? Les Mitri, les Égyptiens. les Égyptiens, si un Égyptien qui vient se convertir, on l'accepte, on le reçoit, mais on lui dit, sache que tu ne pourras pas te marier ni avec un Cohen, ni avec un Lévi, ni avec un Israël. Avec qui tu vas pouvoir te marier? Avec un converti ou un converti comme toi? Maintenant, pendant combien de générations ce converti va être interdit? La première génération est interdite, la deuxième est interdite, mais la troisième elle est permise. Pourquoi est-ce qu'on va... contrairement à d'autres peuplades, comme Ammon ou Moab, que eux, ils vont être interdits à tout jamais. Ça veut dire qu'un homme de Ammon ou Moab qui vient se convertir, il n'a pas le droit de se marier avec Israël, son fils n'a pas le droit de se marier avec Israël, son petit-fils non plus, son petit-fils, etc. Jusque autant de générations que possible. Tant qu'on les reconnaît, ils n'auront pas le droit de se marier avec un Israël. Pourquoi est-ce que l'Égyptien est mieux traité que le Ammon? On voit que Ammon, je ne rentre pas dans tous les détails, qu'est-ce qu'il a fait Ammon ou Moab, mais la faute de Ammon ou Moab, apparemment, elle est moindre que celle des Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont fait du mal. Ils ont fait beaucoup de mal au roi d'Israël. Pourquoi? Tout simplement. L'une des raisons, c'est qu'on a habité chez eux. La Torah nous dit parce que tu as été un citoyen chez eux. Et donc, tu as de la reconnaissance. On a de la reconnaissance envers eux. Donc, reconnaissance envers le peuple dans lequel on a vécu, on doit l'avoir. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a vu un truc intéressant? C'est que les Juifs anglais, donc les Anglais, Juifs, contre qui ils se battaient? Ils se battaient contre l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, c'était l'ennemi des Anglais. Donc, on se battait contre... Les Juifs français, contre qui ils se battaient? Contre l'Allemagne aussi. Les Juifs russes, contre qui ils se battaient? Alors, je ne sais plus quoi, mais ils se battaient pour la Russie, contre l'ennemi, etc., etc. On voit que, malheureusement, on a vu des fois des Juifs se battre les uns contre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à la terre où ils étaient. Et ce qui était intéressant, c'était les Juifs qui étaient au milieu polonais, lituanien, qui étaient entre les deux, entre les Russes et les Allemands, avec qui ils étaient? Ça n'a rien avec le sujet, hein, qui ils étaient. Et bien, ils étaient avec les Allemands, étonnamment. Et ils n'étaient pas avec les Russes. D'accord? Pourtant, on voit que plus tard, c'est les Russes qui vont sauver les Juifs de des contre-concentrations. On dit oui, ça c'est vrai, la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Première Guerre mondiale, les Juifs avaient plus confiance en les Allemands. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce que c'était un peuple qui était quand même cultivé. D'accord? Par rapport aux Russes. Bon, ça c'était une petite parenthèse pour la ferme. Juste pour retrouver le... Donc on avait dit que le juif est patriote. Donc oui, patriote, mais il y a une limite. D'accord? Patriote, reconnaissance, mais il y a une limite. Et là, on voit que les juifs n'ont pas réussi à tenir cette limite-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils ont glissé. Et c'est ça qui va provoquer l'exil. D'accord? Une chose intéressante, c'est que qu'est-ce qu'on va reprocher aux juifs durant toute l'histoire? Qu'est-ce qu'on reproche aux juifs? D'exister. Non, c'est... Quelle sorte de juif on va montrer du doigt?
L'usurier.
Ah.
Bon, les usuriers, on va dire, bah, c'est ça qui nous ont collé à cause des usuriers. Il y a eu plein d'histoires, c'est bon, mais c'est pas ça.
Soit assimilé.
C'est exactement. C'est le juif assimilé qu'on monte du doigt. D'accord? Nous, enfin pas nous, quand je dis nous, c'est les nations du monde, on accepte le juif. Tu veux être juif, sois juif. D'accord? Mais reste juif, reste où tu es. Qu'est-ce qui sait que, comment les guerres, comment les pogroms, tout ça ont commencé? C'est quand le juif, il a commencé à se mêler de ce qu'il ne regardait pas. Il a commencé à rentrer dans la politique du pays, il a commencé à se mêler. Il y a plein d'histoires. Par exemple, à l'époque des pogroms de Tartate. Vous en parlez, Tartate? Tartate, comment il s'appelait celui qui a fait Tartate? Ouais, comment il s'appelle? Krimlinski, un nom comme ça. 1648-1649, d'accord? C'est qui la médaille d'or du massacre des juifs? Marchez-moi, c'est Hitler. D'accord? Combien il en a tué, Hitler? 6 millions. Lui, il en a tué 1 million en 2 ans. Donc, il est aussi pas mal. En 1648-1649, là-bas en Pologne, cet homme-là, il s'est levé. Il a massacré, il a fait les... Comment ça s'appelle ça en français? Les
pogroms.
Les pogroms. D'accord? C'est lui, l'inventeur des pogroms. Il rentre dans les villages, il massacrait tout le monde. 1 million de juifs, il a tué cet homme-là. D'accord? Maintenant, il a tué toutes sortes de gens. Mais à cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À cause que les seigneurs polonais, d'accord, ils étaient ils imposaient beaucoup leurs citoyens plutôt. Et qui c'est qu'ils ont utilisé pour gérer les encaissements des impôts? C'était qui? C'était les juifs. Maintenant, les juifs, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils voulaient se montrer, ils voulaient se faire voir comme des gens bien, on veut aider, ils ont trop commencé à se mêler, et donc ils ont commencé à prendre du pouvoir, etc., etc. Et ça, les Polonais, ils ont vu ça, ils n'ont pas apprécié. Ils ont dit, juif, tu veux vivre ici, tu restes dans ton coin très très bien, c'est super, ah, tu vas commencer à te faire des choses qui sont liées avec le gouvernement, etc., là, on ne supporte plus. Et là, ils ont commencé à faire des massacres. On voit aussi, bon, tout au long, je vais raconter toute l'histoire, mais on voit que tout au long de l'histoire, ceux qu'on va, on va montrer du doigt en premier, parce qu'après, malheureusement, c'est tout le peuple qui va prendre, que quand, lorsque le, quand il y a des mauvaises herbes dans un champ, hein, d'accord, tu ne peux pas brûler que la mauvaise herbe. Quand la flamme elle tombe dans le champ, elle brûle tout le champ. D'accord, tout le Ram Israël, tout le peuple juif, il est lié. On est tous liés les uns avec les autres. Il n'y a pas les religieux et les non-religieux. Il y a que des juifs, on est tous liés. Quand il y en a un, il fait une bêtise, tout le monde prend. D'accord, d'un côté aussi. Quand quelqu'un fait une chose bien, tout le monde il est gagnant. En tout cas, donc c'est ce qui va se passer, c'est que les juifs vont commencer à se patriotiser un petit peu trop, et ça va entraîner la galoute. Donc on n'aura pas le temps de parler de tous les processus qu'il y a dans l'exil, mais on va directement sauter à la fin. Donc vous connaissez la suite de l'histoire, je la raconte rapidement. Donc Pharaon, au fur et à mesure, va asservir le peuple juif. D'accord, le peuple juif va devenir esclave, d'accord, jusqu'à devenir des esclaves comme on n'a jamais connu d'ailleurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Là va arriver le moment où le Ram Israël va arriver à la... Ils n'en peuvent plus. Ça y est, ils ont vécu beaucoup de choses jusqu'à au moment où Pharaon, il va commencer... Quand il était malade, Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les petits bébés, les petits enfants juifs, et il va les égorger pour récupérer leur sang afin de se baigner dans son sang. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui, paraît-il, guérit la lèpre. D'accord? 150 le matin, 150 le soir. Et ça, ce décret-là, le Ram Israël, il n'a pas pu supporter et ils ont hurlé vers Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va écouter leur prière et il va envoyer donc le libérateur. Qui va être le libérateur? Moshe Rabbeinu. Donc les Israël, Hachem, sauve-nous. Kaviachol, si on pourrait dire comme ça, s'il y avait une discussion, qu'est-ce qu'il aurait dit à Hachem? Il dit, je ne peux pas vous dire pour livrer. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que vous devez rester en Égypte, enfin, sur une terre étrangère, pendant 400 ans. C'est ce que Hachem avait promis à Abraham. Abraham, il avait, donc, par rapport à l'histoire qu'il y avait là-bas, il a dit, sache que ta descendant sera asservi sur une terre étrangère pendant 400 ans. Le temps n'est pas arrivé, vous ne pouvez pas sortir maintenant. Mais Hachem, sors-nous, vous ne pouvez pas, sors-nous, on ne peut pas. Et donc, ça, c'est le choix, c'est la prière qu'ils ont priée avant que le grand malheur arrive. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il a commencé à égorger les enfants. Là, c'était intenable. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à hurler. Nous dit le Gaon de Vilna, la prière Vaïzaakou, c'est une prière qui est très très forte. Lorsqu'un homme, il est dans la peine, et il hurle, et il prie de tout son cœur, de toutes ses forces à Hachem, alors, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Et là, c'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il fait Zaku. Et lorsqu'ils ont crié, alors Hachem, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit, ok, je vais les libérer. Le langage de Shua, Shavatam, Shua, c'est un langage qu'on priait quand on était avant la peine, avant que la vague arrive. Et le langage de Vaizaku, c'est quand on était dans la peine. Mais là-bas, ils étaient dans la peine. Ils étaient esclaves. Donc, c'est pas. Pourquoi ils ont employé ce langage? Pourquoi la Torah emploie ce langage? Ils ont réellement prié. C'est pas un langage de avant la peine, ils sont dans la peine. En réalité, cette question-là, je veux la réponse aussi à cette question-là, hein, où il explique que là-bas, le Rida, il explique qu'il y a quatre langages de Géoula. D'accord, je ne rentre pas dans tous les détails, en tout cas, il y a quatre langages de Géoula, de libération, Vetsalti, etc. Vetsalti, Vetsalti, Vegalti, Velakarti. D'accord? Et ces quatre langages, ils font allusion, entre autres, à quatre parties dans le peuple. Et une des parties du peuple, c'était les esclaves qui étaient devenus des esclaves de père en fils, qui étaient bien en tant qu'esclaves. Ils étaient endormis dans l'exil. Ils étaient endormis comment dans l'exil? Et ces gens-là, c'est vrai qu'ils priaient, c'est vrai qu'ils demandaient à Hachem de les aider. Mais leur prière, c'était pas une prière qui était liée au présent. Pourquoi? Ils étaient habitués à leur condition d'esclave. Donc tout ce qu'ils priaient, c'était, ils ne voulaient pas qu'un malheur plus grand arrive. Ils demandaient à Hachem, oh là là, ils veulent nous demander de faire telle et telle, construire une ville comme ci, une ville comme ça, de faire telle et telle chose. Donc ils priaient, c'était que des prières par rapport au futur. Ce n'était pas une prière par rapport à une souffrance. Ils ne souffraient plus. Enfin, il y en avait qui souffraient, mais il y en a qui ne souffraient plus. Ils étaient devenus des esclaves de père en fils. Et il dit, en réalité, c'est lié avec notre génération. Aujourd'hui, on parle du Mashiach. Beaucoup de gens parlent du Mashiach. On veut le Mashiach, on veut le Mashiach, on veut le Mashiach. Mais est-ce que les prières qu'on demande, quand on demande à Hachem, quand on prie Hachem pour le Mashiach, est-ce que ce sont des zaaka, des prières de nos cœurs, ou c'est des choua? C'est des prières qu'on veut le Mashiach parce que on veut pas qu'une galère plus grande arrive dans notre vie. Alors peut-être qu'il faudrait se poser la question que notre volonté de faire venir le Mashiach, que le Mashiach vienne, elle n'était pas forcément très 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 nishma. Des fois, on est bien dans notre petite galoute. Ouais, moi j'habite là-bas, ou en France, ou en Israël, ça peut être n'importe où. Marié, j'ai des enfants, j'ai une bonne parnassa, tout va bien. Ouais, le Mashiach, bon, c'est sûr, je suis un bon juif, le Mashiach il vienne, hein. Je vais pas dire que non, ça se fait pas, quoi. Donc, je veux le Mashiach il vienne. Mais en réalité, est-ce que vraiment je veux dire que le Mashiach il vienne? Non. Quand est-ce que je veux que le Mashiach il vienne, Chas v'shalom? C'est quand ils vont commencer à égorger les enfants. Ah, là, ils égorgent les enfants, là, on crie Hachem, Hachem, envoie-nous Mashiach. C'est exactement la même chose. Donc, peut-être que la raison pour laquelle, je crois qu'au nom de Rabbi Chaim Volojine, on dit comme ça, que la raison pour laquelle le Mashiach, il n'est pas venu, c'est que peut-être qu'on ne le réclame pas réellement. Je vous raconte une histoire quand j'étais petit, bon, c'est rigolo, on ne m'en voulait pas. On devait partir au ski quand on était petit à Pessah. Et à la synagogue, hein, il est venu, il a dit, ouais, un tel, il a dit que le Mashiach, il viendrait à Pessah. Alors, moi, j'étais petit, j'étais un peu un petit peu tam, comme ça, un peu simplé, quoi. Et j'écoutais. Je dis, oh là, venir à Pessah, je me dis dans la tête, oh non, pas à Pessah, à Pessah, on va au ski et on va pas rater le ski. S'il veut, il vient après Pessah. Ouais, il y a une autre histoire comme ça avec, je crois que c'était Rabbi Chaim de Volojine, je crois. Non, on l'a vu. Une fois, il s'est trouvé dans une auberge. Je sais plus où, non, je crois que c'était Rabbi Chaim de Volojine. Il était dans une auberge comme ça. Et dans la nuit, il s'est levé, il a fait Tikkun Ratzot. Quoi, Tikkun Ratzot? Il a prié, la prière qu'on fait pour la cause de la destruction du Beit HaMikdash. Et il pleurait comme ça, il priait, il pleurait, à voix haute. Et l'aubergiste, il a entendu des pleurs. Alors il est rentré voir qu'est-ce qui se passe. Et il voit le rabbin assis par terre en train de pleurer. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Alors il commence à expliquer, Tikkun Ratzot, machin, je prie pour que Hachem reconstruit Beit HaMikdash, pour que le Mashiach revienne. Et le rabbin se retourne vers l'aubergiste et lui dit, tu veux que le Mashiach revienne? Alors, il ne comprenait pas, le Mashiach qui va nous prendre, va nous aller à Jérusalem, tout ça. Alors il dit, je ne sais pas, il faut que je demande à ma femme. Alors il repart, va voir sa femme, il revient, et ma femme, qu'est-ce qu'elle a dit ta femme? Elle dit, ma femme m'a dit, mais qui c'est qui va garder les poules? Si on va à Jérusalem, qui va garder les poules? Et là, le rabbin s'énerve, il dit, mais qui va garder les poules? Tu veux que les Cosaques viennent et qu'ils massacrent tout le monde, les poules? Tu parles des poules maintenant? Alors le bergiste, il dit des trucs, il dit, attends, je vais demander à ma femme. Il retourne. Il revient et ma femme a dit, est-ce que vous pouvez prier pour que Hachem y prenne et il emmène les Cosaques à Jérusalem? Donc voilà, c'est plus ou moins la notion de des fois, le Mashiach qu'on veut. Une fois aussi, j'ai dit à quelques des gens, ils m'ont demandé, il y a longtemps, ils m'ont dit, mais quand le Mashiach va venir, qu'est-ce qu'on va faire? Arrêtez, je savais pas trop quoi lui dire. Je lui dis, je sais pas, on va tous aller à Yeshiva. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que ça va être, mais moi je lui dis comme ça. On va tous aller à Yeshiva, on va étudier la Torah, on va s'élever spirituellement. Et le bonhomme, il m'a dit, oh là là, quelle galère. Donc, on parle du Mashiach. Est-ce qu'on comprend ce que c'est réellement Mashiach? Faut savoir, c'est quoi la notion de Mashiach? La notion de Mashiach, c'est de, je dis pas que je suis mieux, hein. Attends, je suis pas mieux, je suis vraiment peut-être le dernier ou l'avant-dernier. La notion de Mashiach, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu que sa shrina, que sa présence divine qui est emprisonnée aujourd'hui, comme on l'a vu dans le Parashat Shemot, où Hachem, il s'est dévoilé dans un buisson ardent. Un buisson, c'est avec des épines, des pics. Pourquoi il ne s'est pas dévoilé dans un bel arbre? Pourquoi dans un endroit où il y a des épines? Pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en galoute, il est en exil. Dans ce monde, Hachem n'a pas sa place. C'est vrai qu'il n'a pas sa place, on ne lui donne pas sa place. Et nous, le Mashiach qu'on demande, c'est de demander à Akadosh Baruch Hu, libère ta présence divine qui est en galoute, qui est en exil. Fais que Hachem, que les gens te reconnaissent. Pas pour nous, pas à cause des galères que nous avons. On veut que toi, tu sois libéré pour que tu aies ta place de roi dans le monde. Ça, c'est la vraie volonté du Mashiach. Alors, on peut la demander comme ça. Et si Chas v'Shalom, alors on ne la demande pas comme ça. Alors, on la demandera pour une autre chose qui est Hachem Yishmor. Et ils vont commencer à égorger et quand ils vont commencer à nous faire du mal. Malheureusement, peut-être c'est ça qui a... Ce qu'on avait dit aux endeuillés quand on est parti voir la famille Abraham, on leur a dit que ces quatre personnes-là qui se sont fait tuer, mais qui touchent Hachem, ils ont un mérite extraordinaire. Parce qu'ils ont réussi à réveiller tout le peuple juif. Tout le peuple juif. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est les commandos du Ram Israël, c'est des grands personnages. D'être capable de débranler la terre entière, c'est quelque chose de très très fort. D'avoir rappelé la conscience juive au monde. pas au monde, au monde juif. Il y a plein de juifs qui savent qu'ils sont juifs, qui vivent juifs, etc. Mais il y a plein de gens en France, d'accord, qui sont au fin fond du monde, qui sont paumés, quoi. Ils ont oublié que c'était juif. Et là, ça leur a rappelé qu'ils sont juifs, qu'il y a quelque chose, il y a le judaïsme pour se réveiller. En tout cas, ça, c'est des grands personnages. Juste pour finir le sujet, et d'où est-ce qu'on a une preuve à ce sujet-là, que qui est sorti d'Égypte ? Combien sont sortis d'Égypte ? Combien sont sortis d'Égypte ?
Un cinquième.
D'accord ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres ? Les autres ne voulaient pas sortir. Les autres, ils étaient bien en galoute. Ils disaient, c'est vrai qu'on est esclaves, on est ce que tu veux, mais on est bien où on est. On a notre travail, notre machin, on galère un petit peu, mais ils étaient habitués à cette... Et donc, ils sont en galoute. Donc, vraiment, volonté de vouloir la Géoula, c'est une le Mashiach, c'est une volonté qu'il faut affiner, qu'il faut réveiller, qu'il faut comprendre aussi. Qu'est-ce que c'est le Mashiach ? D'accord ? Et ça, c'est seulement si on médite sur la grandeur d'Hachem, qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu ? De vouloir simplement Mashiach pour sortir de ses galères, le type il vient d'avoir un contrôle fiscal, il veut le Mashiach. Bon, c'est sûr que c'est une bonne chose, mais Hachem, ça se voit, mais c'est pas ça le Mashiach, c'est quelque chose de plus profond. Et à partir du moment où ils ont crié, Vatal, Shavatam, elle est montée toutes leurs prières, toutes les prières qu'ils avaient priées précédemment. Ça veut dire que pendant 210 ans, ils ont prié Hachem, 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 aide-nous. Et bien les prières, elles sont montées au ciel, elles sont arrêtées. Elles ne pouvaient pas passer le ciel, non. Pas de prière ici, on ne peut pas passer, vous devez rester encore 300 ans, encore 200 ans, etc. Mais lorsqu'ils ont commencé à hurler, qu'est-ce qui s'est passé ? Les cieux se sont ouverts. Et là, toutes les prières qu'ils ont priées pendant toutes ces années-là, elles sont montées avec la prière de Vaïzaku. Et ça, le verset nous dit. Vaïzaku, ils ont crié. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, ils ont détruit les barrières dans les cieux. Et montées avec eux toutes les autres prières qu'ils ont priées pendant toutes ces années-là. De là, on apprend plusieurs... des choses extraordinaires. La première chose, qu'une prière forte, une prière très très forte, elle a le pouvoir de détruire tous les cieux, de détruire toutes les barrières qu'il a, plus que ça. Elle a le pouvoir, écoutez bien, d'effacer un décret qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y avait marqué combien ? 400 ans. Après qu'ils ont crié, qu'est-ce qu'il a fait Hachem ?
210 ans.
Ok, allez, on marque 400 et on marque 210. La force d'une prière qui est sincère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toutes les prières qu'on fait, des fois on prie, je vais prier, Hachem, il y en a plein qui ne croient pas à la prière. D'accord ? Pourquoi on ne croit pas à la prière en général ? Parce que hier j'étais dans la galère, j'ai prié, avant-hier j'étais dans la galère, j'ai prié, m'est arrivé, etc. Je prie tous les jours, je suis dans la guerre toujours. En réalité, peut-être que ça manque, ta prière elle manque un petit peu, peut-être c'est pour ça que tu n'es pas exaucé. Mais rassure-toi, toutes les prières que tu as faites, elles sont quelque part, elles t'attendent. Et lorsque Bezrat Hashem tu vas te réveiller, alors là tu vas avoir la Yeshua, le sauvetage de tout ce que tu as demandé précédemment. D'accord ? Très souvent on dit, regarde celui-là, comment il est sorti, il est sorti un bon juif ? D'où il est ? Comment ? Il vient d'une famille paumée. Tu sais ce qu'il est lui ? En réalité, lui c'est le résultat de toutes les prières des grands-mères, des arrière-grands-mères qui ont prié d'avoir une descendance cachère. D'accord ? Et bon, alors les prières ne sont pas appliquées dans la première, dans la deuxième, troisième génération, ça arrive dans la quatrième génération. Et cet homme-là, il est sorti. J'ai entendu dernièrement une histoire d'une dame que sa mère, elle était mariée avec un non-juif, je ne sais pas où c'était, en France, je crois. Sa mère était mariée avec un non-juif. Non, quand je dis sa mère, c'est son arrière-grand-mère, mariée avec un non-juif. Sa mère, c'est mariée avec un non-juif. Non, pas sa mère, sa grand-mère est mariée avec un non-juif. Sa mère, c'est mariée avec un non-juif. Elle-même, c'est mariée avec un non-juif. Ouais. Elle a eu un enfant avec cet homme-là. Donc, alors si vous regardez, toute cette génération, ils sont tous juifs, en vérité, hein. Complètement assimilée. Et cette dame-là, elle a fait tchouva. Ça veut dire qu'il y a quoi ? 4-5 générations. Ce que toutes les prières des grands-mères, voilà, maintenant elles sont tombées. Ces parachutes-là, elles sont liées avec Shovavim. C'est quoi Shovavim ? C'est ce qu'on appelle Tikkun Abrit, la sainteté. La sainteté. Vous savez ce que ça veut dire la sainteté ? De faire attention à toutes les choses de sainteté. On voit que pourquoi c'est lié avec cette période-là ? Bon, il y a plein de raisons pourquoi c'est lié avec cette période-là. Déjà, il faut savoir que la galoute, que le fait de ne pas faire attention à la sainteté, c'est ça qui provoque l'exil. D'accord ? C'est ça qui provoque l'exil. C'est ça qui provoque aussi qu'on a des mauvaises neshamot qui descendent sur terre. D'accord ? Et on voit que beaucoup de neshamot, des mauvaises neshamot, sont descendues à cette époque-là.
De ne pas faire attention à la sainteté
de la Brit. ça fait descendre des mauvaises néchamotes, des néchamotes qui ont des problèmes. D'accord ? Bon, des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé aussi en Égypte. En Égypte, on voit qu'à un moment, les Égyptiens, quand ils n'avaient plus de briques, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient des enfants et ils utilisaient les enfants pour. Alors, les armes Israël. Enfin, Moshe Rabbeinu s'est plaint, il dit regarde, ces pauvres enfants, comment ils souffrent. Et Moshe et Hachem, il lui dit t'inquiète pas, c'est ce que je fais. Et il dit malgré tout. Alors, il dit prends-en, prends et tu verras. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un de ces enfants-là. Qui était cet enfant-là qu'il a pris ?
Micha.
Qu'est-ce qui va devenir Micha ? Micha. C'est lorsqu'ils vont traverser la mer. Qu'est-ce qu'il va avoir dans la poche, lui, Micha ? Un iPhone. Non, pas un iPhone. Enfin, pareil. Il va avoir une idole. D'accord ? Il va traverser la mer avec une idole. C'est-à-dire, comment on peut être à ce point-là ? Tu es en train de traverser la mer. La mer est souvent 12 fois. Tu vois des miracles extraordinaires. Et tu continues à faire des averot. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est des chamottes comme ça. Des chamottes de Rechaim. Et donc, c'est pour ça que c'est lié, encore une fois, de ne pas faire attention à la sainteté. Ça provoque ça. Il y a une autre chose aussi. Il y a marqué que Pharaon, le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait le soir de Pessah ? On raconte la Gada. C'est quoi Pessah ? Paix, la bouche. Sar, elle raconte les louanges de Hachem. Pessah, elle raconte les louanges de Hachem. À cause de qui ? Pourquoi est-ce qu'on doit raconter les louanges de Hachem ? Parce qu'on doit faire le tikkun, la réparation de la bouche. Qui c'est qui a mal utilisé sa bouche ?
Pharaon.
Pharaon, Péra. D'accord ? Pharaon, c'est faire à la bouche mauvaise. Lui, il a parlé la Shonara, il a dit des mauvaises choses. Et donc, nous, on va faire son tikkun. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Que l'exil, pas rentrer aussi dans tous les détails, mais comme il a dit Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a tué, il a tué l'Égyptien, le lendemain, il a voulu séparer deux juifs qui se battaient ensemble. Et un des deux, il dit ouais, t'es devenu d'autres juifs, toi, tu vas te mêler ? Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit ah, j'ai compris pourquoi le Ram Israël est en galoute. C'est parce qu'il y a des délateurs. Ça veut dire des délateurs, des gens qui utilisent mal leur bouche. Donc on voit que toute cette période-là, c'est aussi le tikkun de la bouche qui est lié avec la bride, qui est lié avec Shuv Avim. Et ça, ça provoque, Chas V'Shalom, toute la vérote, ça provoque l'exil. Donc voilà, Hachem Yé Bezrenou.